Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Axel. Après un début de carrière dans la communication, puis un bilan de compétences révélateur, Axel démarrera une nouvelle aventure dans le secrétariat médical. Je suis ravie de vous présenter son portrait aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Axel.
Eh bien, bonjour Marielle. Comment vas-tu?
Je vais très très bien, et toi?
Ça va. Je suis très contente de venir te parler de ce métier de secrétaire médical.
Moi, je suis ravie de te recevoir. Et puis, on se disait en off, du coup, alors moi, je fais ta rencontre virtuelle aujourd'hui. Mais toi, tu es une vraie, lectrice, abonnée, consommatrice de mes contenus depuis plusieurs années. Donc, franchement, merci beaucoup pour ça. Ça me touche énormément.
Oui. Enfin, oui, comme je disais, je suis pas très... Je commente assez peu, mais n'empêche que je suis là et que je suis toujours contente quand je vois arriver tes vidéos de d'albums photos et des choses comme ça, entre autres.
Ah, ouais.
Voilà, oui.
Loisirs créatifs.
Oui, je suis très loisir créatif. Je me suis découvert un peu cette passion-là ces dernières années.
Très bien, d'accord.
Voilà, entre autres, il y a des trucs que j'écoute pas, mais comme tout le monde, quoi, finalement.
Ah bah, le contenu est là pour ça, hein, de toute façon.
Oui, exactement.
Hein, ouais. Et pour les épisodes de podcast, c'est pareil. Je sais très bien qu'il y a des épisodes qui seront écoutés, d'autres moins, et d'autres qui seront réécoutés, voilà. Mais c'est le jeu quand on partage des choses sur Internet, et c'est chouette aussi, du coup, d'avoir une audience qui s'intéresse à certaines choses, à moins à d'autres choses. C'est très, très bien comme ça. Axel, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, parce que, du coup, tu vas nous parler de ton métier qui n'a jamais été ou si peu abordé dans les précédents épisodes. Donc, ton métier de secrétaire médical. Et pour commencer, allez, petite présentation pour apprendre à te connaître.
Bien, donc moi, c'est Axel, j'ai 37 ans, je vis en Belgique, je le précise parce que ça aura son importance dans les explications, particulièrement vis-à-vis des études après. Je n'ai pas d'enfant, je vis avec mon compagnon et je travaille dans le milieu médical donc depuis 6 ans dans ces eaux-là maintenant, en fait. Voilà, pour la courte présentation,
mais c'est
en
très
l'occurrence.
Bien. Donc ça veut dire que cette carrière de secrétaire médical, c'est une reconversion, si je comprends bien?
Pas vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais petite, je voulais être soit astronaute, soit bibliothécaire. Rien à voir l'un avec l'autre.
Ah, écoute, il faut rêver grand. Hein.
Oui, il faut rêver grand, ouais. Sauf que astronaute, comme tu peux le constater, j'ai des lunettes et j'ai une correction relativement moyenne à importante. Et qu'on m'a toujours dit que c'était pas possible.
Ouais, voilà. ça tient pas à grand chose. Hein.
Oui, et en plus, je suis très mauvaise en maths.
Alors là, il y avait un autre problème.
Oui, voilà. Et bibliothécaire, j'étais très attachée à mon grand-père quand j'étais petite et je sentais bien que ça le turlupinait. Il se disait que j'allais me fermer des portes, tu vois.
D'accord.
Ouais. Et donc, je savais pas trop quoi faire. J'étais pas mauvaise élève, j'étais pas brillantissime, mais j'étais pas mauvaise élève et j'ai fait de la communication, en l'occurrence.
Okay.
Donc, j'ai fait ce qu'en Belgique, on appelle un baccalauréat. Donc, après la dernière année d'études aux alentours de 18-19 ans, ce sont c'est un peu comme ton profil, finalement, en fait. Ce sont des études en 3 ans avec beaucoup de stages pour te former à un métier. Donc, j'ai fait ça. Et puis, j'ai fait une passerelle pour faire 2 années de master. En l'occurrence, j'en ai fait 3 parce que j'ai doublé ma dernière année, mais...
Ça reste entre nous.
Voilà. On peut le savoir. C'est important de parler de ce genre de choses parce que la dernière année de master, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Mon grand-père venait de décéder. C'était une année humainement compliquée et je pense qu'il faut aussi dire, en fait, ce sont des échecs et c'est pas grand-chose et on en apprend toujours quelque chose. Au final.
Et puis qu'est-ce que c'est 1 an dans une vie, franchement, hein.
Oui, aussi, c'est ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai croisé une connaissance l'autre jour dont le fils est au tout début. Et ils étaient extrêmement inquiets parce qu'il a fait sa première année de fac en plein 2020, plein Covid. La totale. Alors déjà, une première année de fac, c'est pas simple. Première année de fac en plein milieu du Covid, et je lui dis, c'est pas grave, hein, il la recommence. Il la recommence et tant qu'il passe à la suivante,
Oui.
Oui, voilà, c'est ça. Ça ira. Faisons-lui confiance.
Mais
Ça
bien
va aller.
sûr.
Le temps de trouver ses marques. Déjà, trouver ses marques pour une première année, c'est pas simple. Mais alors, en plein milieu du Covid, avec les cours qui n'avaient pas lieu de la manière habituelle, en plus devoir trouver la manière de travailler, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'aurais pas voulu être à sa place, tu sais.
Ah, ça c'est sûr. Oh, bah, je crois qu'on a été nombreux à plaindre, oui, les étudiants qui étaient en plein dans des enjeux de leurs études à ce moment-là, ça devait être horrible.
Bah, je
Sur
reconnais que moi
d'être
j'en
isolé, d'être.
ouais. Moi j'en ai pas vraiment dans mon entourage, c'est vraiment quand on a croisé cet ami de mon compagnon et qui nous a parlé de leur fils que je me suis dit ah oui tiens j'avais pas pensé à eux. Voilà. Et donc en l'occurrence donc j'ai fait de la communication et j'ai fait une spécialisation dans le milieu de la culture. Donc tout ce qui était organisation d'événements. Donc j'ai fait énormément de stages. Dans le milieu événementiel, allant de la participation pure à la mise en place d'un événement, en commençant à mettre des flyers souplis. Si tu savais ce que j'ai fait de la mise souplie, mon Dieu! Voilà.
J'imagine.
Mais non, ben, faut le faire, hein.
Ah, bah écoute.
Il faut que ça parte à un moment, hein. Donc, voilà. Et quand je suis sortie des études, j'avais plein de stages, tout ça, mais j'ai eu énormément de mal à trouver du boulot. Petit pays, milieu socioculturel comme ça, est massivement subventionné en Belgique.
Ah oui,
Donc
d'accord.
c'est assez simple d'y trouver un stage, c'est beaucoup moins simple d'y trouver un emploi, et encore plus un emploi pérenne. Ça fait plaisir hein, à un moment donné,
C'est
quand même.
intéressant ce que tu dis, petit pays aussi. C'est vrai que
Oui.
ça rajoute son lot de difficultés. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. Enfin, moi, tu vois, je suis française et je ne pense pas à ce
Ouais.
détail-là, mais ouais.
Oui, petit pays à trois langues.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors, parlons-en du coup. Est-ce que tu parles d'autres langues?
Je me débrouille en néerlandais, je le lis mieux que je ne le parle, mais disons que je peux accueillir un patient, typiquement, ça je sais faire.
Ah, quand même, d'accord.
Ouais, quand même. Dans le vocabulaire purement de mon métier, ça va. Par contre, faut pas me demander. Si, je peux te commander un truc. Si t'es à Gand, je peux te commander un truc en néerlandais. Je parviendrai toujours à me faire comprendre. Mais tenir une conversation autre qu'en dehors de mon métier, ça, je n'y arrive pas. Par contre, je sais le faire en anglais. On a pas mal de patients anglophones.
Du coup, ouais.
Voilà. Moi, l'allemand, j'ai suivi des cours d'allemand quand j'étais à l'école, mais je ne m'en sers jamais. D'ailleurs, je serais absolument incapable de dire quoi que ce soit. On va même pas essayer, ça écorcherait les oreilles de ma meilleure amie. Donc, je ne vais pas lui faire cet
Bon, c'est bien. Alors, quand même
Voilà.
un bon bagage linguistique. Donc, tu sors de tes études avec l'envie, la volonté de travailler dans un milieu qui a l'air de te plaire. Du coup, ces stages t'épanouissent, mais cette difficulté à trouver un emploi.
Ouais, donc j'ai bossé en bibliothèque, j'ai bossé comme enseignante. Deux remplacements, je savais que c'était pas pour moi, mais fallait
Ah, c'est
essayer.
vrai?
Ah ouais, non, mais il fallait essayer pour le savoir, hein. Voilà.
Sur quel aspect? Je suis curieuse.
En fait, j'ai pas de bons souvenirs de l'école en ce qui me
Ah.
concerne. Je suis toujours partie du principe que ça devait pas toucher les élèves à qui j'enseignais, mais c'était trop compliqué au quotidien de mettre ça de côté. Je dis pas que maintenant j'y arriverai pas, parce qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, j'ai fait d'autres choses, il y a des choses que je me suis pardonnée, que j'ai pardonnée aux autres, mais à l'époque c'était pas possible. Voilà. Tout simplement. Mais ouais, c'est vrai que maintenant peut-être que, et peut-être pas nécessairement aux ados non plus, peut-être plutôt à des adultes, là, enfin. Oui. Non, mais bon, après j'ai de chouettes souvenirs aussi, hein. J'en ai pas que des mauvais, mais pas plus ma tasse de thé que ça, quoi.
Ouais, ok.
Voilà.
Bon, écoute, je le dis souvent dans le podcast, mais c'est bien de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, mais je trouve que c'est très bien aussi de savoir ce qu'on ne veut pas faire dans la vie.
Oui, en se disant oui, non, là, c'est, je suis pas douée pour ça, ou ça touche quelque chose de
Ouais.
tellement personnel qu'on
Exactement.
va
Soit
s'arrêter
connaître ses
là.
limites, soit voilà, savoir qu'on n'a pas les ressources pour avoir telle ou telle position. Ouais, c'est vrai.
Et donc j'ai aussi, puis j'ai, alors le dernier boulot que j'ai pris avant de verser dans le médical, c'était du secrétariat, déjà dans une structure purement organisationnelle. Je suis pas restée très longtemps, je suis restée la période, parce que c'était très lié à la belle période. Donc voilà, donc je suis restée ce temps-là, j'étais pas mécontente. Et puis toujours la même chose, dès que je quittais un boulot, ben, ah oui, il faut repartir sur autre chose, quoi. Et là, je me suis posée, je me suis dit, bon, on va faire un petit bilan de compétences. Parce que j'en avais jamais fait jusque-là. Donc, je suis passée par une structure qui se trouvait pas très loin de chez moi et qui dépendait du Forem. Donc, le Forem en Belgique, c'est le. Comment est-ce qu'on appelle encore en France la structure à laquelle s'adressent les demandeurs d'emploi?
Pôle emploi?
Pôle emploi. En fait, si tu veux, le Forem, c'est l'égal du Pôle emploi.
D'accord.
Et donc, je suis passée par eux. Ils avaient une petite structure sur le côté qui permettait de faire des bilans de compétences, vu que c'était pris en charge. Là, c'était financé par eux, vu que j'étais au chômage, et des choses comme ça. Et est ressortie la grosse donnée de la capacité administrative. Ça paraissait évident. Moi, ça n'était pas évident pour moi à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'avec le recul, ben, j'avais fait beaucoup de dossiers de demande de subsides et des choses comme ça. Donc forcément, l'administratif, je savais faire. Et en fait, le médical s'est imposé presque par hasard. En fait, c'est un boulot que j'ai trouvé qui n'était pas très loin de chez moi, qui rejoignait cette donnée administrative, et il s'est avéré que c'était un poste de garde de médecine générale.
Ah, donc c'est un peu un concours de circonstances, quoi. Tu
Exactement,
sors
complètement.
de ce rendez-vous, on met en avant cette capacité que tu as,
Ouais.
voilà, à être à l'aise dans le domaine administratif. Toi, t'entends parler de ce poste et tu te dis, bon, bah, clairement, les planètes s'alignent.
Je vais tenter, j'ai passé le test de recrutement. Je pense c'était un contrat de remplacement d'une personne qui était malade. Je pense qu'il m'a engagé parce qu'il s'est dit que ça allait bien coller avec le reste de son équipe. Et je suis restée le temps de remplacer. Elle est rentrée. Je crois que j'ai fait un remplacement de 4-5 mois, quelque chose comme ça.
Donc
De
là, on est en
mémoire.
quelle année à ce moment-là?
Oh là là, ça j'ai pas vérifié, mais je dirais
Non, à
qu'on
peu
est
près, juste pour qu'on se
en
repère.
2015, je pense.
2015, ok.
Je crois. Honnêtement, là, comme ça, je suis pas plus sûre que ça. Mais
Non, non, mais juste pour avoir une idée de la chronologie, donc c'était, voilà, il y a environ 7-8 ans, quoi.
ouais, peut-être bien 2016, alors.
Ok.
Je ne sais plus bien, honnêtement.
Non, non, ça
Voilà.
n'a pas d'importance.
Voilà. En fait, à partir de là, ça s'est enchaîné. Alors, j'ai eu parfois des creux entre le. Parce que finalement, je n'en suis jamais qu'à mon troisième contrat, hein, au niveau médical. Donc, il y a eu ce remplacement. Puis, j'ai travaillé dans une maison médicale.
Ok.
Toujours en médecine générale. Donc là, par contre, c'était une maison médicale au forfait. J'imagine que ça doit exister aussi en France. Moi, je connaissais pas le principe avant de travailler avec eux. Mais le principe, c'est que pour peu que le patient soit en ordre de mutuelle, il a accès aux soins de santé qui sont le médecin généraliste, le kiné et l'infirmière.
D'accord.
Et ils n'ont rien à payer. Si tu veux, la mutuelle. La maison médicale reçoit une somme tous les mois au nombre de personnes affiliées parce qu'ils sont en ordre de mutuelle et c'est ce qui permet de gérer les finances à l'année et plus quoi, en fait.
D'accord.
Voilà.
Et toi, tu t'épanouis dans ces différents postes, du coup, et tu te sens à ta
Oui,
place,
ça me plaît bien en tout cas. Et en tout cas, ça me plaît suffisamment que pour continuer. Alors
Ouais.
évidemment, des difficultés, il y en a, entre autres le jour où j'ai découvert qu'un téléphone pouvait ne jamais s'arrêter.
Ah là là, ouais.
Oh là 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 là. Je le savais déjà parce que c'est vrai que bon, j'avais fait un stage dans un théâtre, le téléphone n'arrêtait jamais, mais c'était pas la même chose. J'avais pas l'impression d'être constamment interrompu. Que là, parfois, tu dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je voudrais bien qu'il arrête de sonner? Qu'est-ce que je
Ah ben
voudrais bien
ça,
qu'il arrête de sonner? Voilà.
Et tu accèdes à ces différents postes sans formation supplémentaire par rapport à ta formation de base.
Absolument pas. Non.
D'accord.
Oui, ça s'est bien passé. Alors après, bon, si j'avais des questions, c'était le premier, bon, si j'avais des questions. Entre autres, moi, je sais bien qu'un truc qui me questionnait beaucoup quand j'ai commencé, c'est quoi les urgences et comment est-ce qu'on fait?
Ouais, c'est une bonne première question, ça.
Voilà, donc bon, les critères d'urgence, c'est quoi? Et où est-ce que je les envoie? En gros, ça c'était vraiment la question principale. Et après, à partir de là, bah, c'était vraiment au cas par cas, parce qu'en fait, on sait pas prévoir ce qui va vous tomber dessus.
Oui, c'est vrai qu'on compose avec l'urgence relative ou voilà,
Non.
la consultation de routine haute, mais c'est déjà bien d'avoir un socle solide sur au moins la gestion de l'urgence,
Voilà. Et
qu'elle soit
alors,
vitale ou non, mais ouais.
pour être complète, j'ai fait une petite recherche parce que j'avais bien une idée de comment étaient formées les secrétaires médicales qui ne passent pas par la communication comme moi, mais je me suis dit, je vais quand même vérifier pour pouvoir en parler. C'est exactement ce que j'ai fait en communication et c'est du secrétariat de direction. Et ils choisissent, en tout cas en Belgique, entre le secrétariat de direction qui mènera plutôt vers les métiers de l'entreprise ou vers le secrétariat médical. Ça, j'ai quand même vérifié, je me suis dit, tiens, je vais regarder.
Non, non, mais bah merci de l'avoir fait, mais c'est intéressant. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, j'imagine, on parle quand même de terminologie médicale, voilà, je trouve pas d'exemple, mais vraiment de termes médicaux, de choses bien particulières qui sont très très propres au milieu de la santé?
Si, très certainement. Moi, je les ai appris sur le tas. C'est pas
C'est ce que j'allais te
infaisable.
demander, du coup. Ouais, toi, t'as complètement appris ça sur
J'ai
le tas.
complètement appris sur le tas, donc ce qui fait qu'il y a très certainement des choses qui sont totalement évidentes pour une secrétaire médicale que je ne sais pas. Mais à côté de ça, je sais bien qu'il y a. J'ai plus d'exemples comme ça, mais. Oui, ben, très bêtement, un jour j'avais un employeur qui voulait faire de la publicité sur quelque chose et je le regarde et je lui dis ben, pourquoi est-ce que t'as pas contacté la presse locale? Ça lui est même pas venu à l'esprit. Ah
Ah
oui.
ouais. C'est rigolo.
Oui, voilà. Donc oui, non, mais il y a sûrement des choses. J'imagine qu'une secrétaire médicale doit avoir l'idée de ce qui relève vraiment de l'urgence. Moi, c'est vrai que je suis arrivée en disant, bon, ben, l'urgence, c'est quoi?
Alors ça demande un travail considérable, du coup ça veut dire
Ah, mais les premiers.
entendre des mots, lire des choses sur des comptes rendus et se dire ça, il va falloir
Ok.
que je le retienne.
Voilà,
Ça
c'est ça. Alors.
paraît important.
Maintenant, c'est plus le cas parce que où je suis maintenant, donc c'est le troisième emploi dans le milieu que j'ai. Je travaille pour un ophtalmo. En plus, je me suis pas facilité la vie parce qu'il semblerait que l'ophtalmologie soit un monde totalement à part.
C'est vrai.
Mais les tout premiers temps et partout, j'étais toujours avec mon petit carnet, mon bic. Qu'est-ce que tu viens de me dire?
Ah oui, non, mais c'est
Ah
sûr,
ouais,
il y a des
clairement.
termes techniques. En plus, il y a les termes techniques, pour être passé
Ouais.
par là. Il y a les diminutifs de termes techniques. On a décidé
Oui.
que blépharoplastie, on dit blépharo,
Blépharo.
blépharo. Voilà. Et
Blépharo.
puis on ne sait pas pourquoi, mais on dit blépharo.
Ou alors le décollement de rétine qui se DR.
Ouais, non, mais c'est ça,
Non,
c'est
mais
ça.
DR dans le milieu, ça sera docteur. Pas
Eh
décollement de
oui.
rétine.
Non, non, mais et puis
Ok.
là, on donne un fragment de ce qu'il faut apprendre, mais c'est des centaines de mots comme ça qu'il va falloir finir par retenir, comprendre ce que ça signifie derrière, ce
Définir,
que ça
exactement.
engendre. Ouais.
Oui, tu sais, c'est comme. Ben, je sais bien que. Ben, typiquement, une urgence en ophtalmo, c'est. Qui peut être signe d'un décollement de rétine derrière, ce sont des gens qui appellent en disant je vois des petits points noirs et j'ai l'impression de voir des lumières. Vaut mieux que la personne soit vue dans la journée.
Ouais,
Ou
donc
au
ça, il
moins,
faut que toi, ça t'alerte, quoi.
faut que moi,
Ouais.
ça m'alerte. Et je sais que moi, le médecin, le jour où je suis arrivée, me l'a présenté comme ça. Je sais bien que c'est le patient qui m'a appris le terme technique, un jour, une fois, bien après, qui est phosphène.
Ah oui.
Ça, je trouvais ça amusant, par contre.
Phosphène. Eh oui, les fameux petits flashs.
Oui, c'est ça.
Voilà. Ah ouais.
Les fameux petits flashs. Les
Bon,
fameux
c'est là
petits
qu'il
flashs.
faut, il faut ressortir ses connaissances de latin, de grec, si on en a fait quand on était plus jeune, hein?
Oui.
Et si on s'en souvient, parce que ça c'est encore autre
Ça, c'est
chose,
encore
mais
autre chose.
fosse, ça vient de phosphos ou je ne sais quoi, et bref, et puis après il faut retrouver les racines pour essayer de comprendre, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
Oui, voilà. Enfin, après, moi j'ai eu une chance dans l'affaire, c'est que les médecins avec lesquels je travaille avec un optométriste
D'accord.
et que il a vraiment été ma source première d'information.
Ah ouais.
Il m'a dit un truc là, j'ai pas compris, tu peux m'expliquer? C'était vraiment ça. Et j'ai pas totalement oublié ce que c'était parce que j'ai une collègue depuis décembre de l'année dernière. Et alors de temps en temps, je la vois, tu sais. Je vois le regard qui se perd, je me dis, ça y est, on l'a perdu, qu'est-ce qu'on vient de dire?
Tiens, ça c'était moi il y a 3 ans.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, alors, ce qu'on vient de dire, ça voulait dire
On
ça.
reprend.
On reprend. Donc, non, on parle pas chinois sous-titré hébreu, même si on dirait, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue les premiers temps, et particulièrement en ophtalmo. En fait, j'ai arrêté de m'inquiéter le jour où le médecin m'a dit, mais c'est normal.
Oui, bah oui, c'est sûr,
Oh,
c'est sûr.
ça va alors.
Ouais. Donc ça fait combien d'années maintenant que tu es en ophtalmo?
Je vais commencer ma quatrième année en janvier.
D'accord. Donc tu exerces dans un cabinet
Privé. Je n'ai
privé.
jamais exercé dans le milieu hospitalier. J'ai toujours
D'accord.
bossé dans le privé. Alors, on a des contacts réguliers avec l'hospitalier parce que donc il y a 6 ophtalmos, si je ne me trompe pas, et il y en a 3 qui font de la chirurgie. Donc, certains qui font de la chirurgie de paupières, on parlait de blépharoplastie juste
La
avant,
fameuse.
la fameuse, et deux qui font de la chirurgie de rétine, d'où le fameux décollement de rétine, et puis il y a toutes les interventions de cataracte, mais je n'ai jamais travaillé dans l'hospitalier.
D'accord.
C'est un milieu que je connais pas du tout. Enfin, j'ai bien une idée de comment ils fonctionnent par rapport aux relations que moi je peux avoir avec eux, mais je n'y ai jamais travaillé par contre.
Et alors, comment s'organisent tes journées au cabinet? Alors, j'imagine qu'aucune journée ne se ressemble à 100%, mais est-ce que tu
J'imagine bien.
peux, j'imagine bien, mais est-ce qu'il y a peut-être des tâches que tu effectues au quotidien et dont on n'a pas idée? Alors, les gens imaginent, je pense, assez facilement la prise de rendez-vous, bien sûr l'accueil des patients, la remise des ordonnances, mais tu vois, on ne sait pas parfois que le médecin dicte des choses sur un dictaphone et que c'est la secrétaire derrière qui doit écrire sans faute d'orthographe, sans faire d'erreur, parce que le compte-rendu a une valeur juridique derrière qui est lourde aussi.
Oui.
Donc il faut que ça soit parfaitement, parfaitement retranscrit. Est-ce qu'il y a des
Oui,
petites
donc
choses comme ça auxquelles on ne pense pas?
il y a toute la partie du protocole comme ça typiquement. C'est vrai que ça je l'ai au tout départ je l'ai pas fait parce que j'avais une collègue plus âgée qui ensuite a eu fini et donc là j'ai pris le relais. Donc quand j'ai commencé c'était elle qui le faisait. Donc quand elle commençait j'étais toujours comme ça au-dessus de son épaule. Allez, je vais regarder ce qu'elle fait. Ce qui était bien utile le jour où j'ai dû m'y mettre. Là, par contre, c'est justement là que les termes techniques m'ont manqué. Parce que, évidemment, le médecin qui me le dicte, c'était quoi une fois? Le
Ouais, c'était
nombre
un
de.
exemple de d'une phrase vraiment.
C'est pas nécessairement une phrase, c'était vraiment des mots typiques. Je sais bien que le truc qu'il fallait que je vérifie systématiquement, c'était un nom de médicament. Et c'était de la vancomycine. Je sais que la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Vancomycine, ceftazimine.
Ah oui.
Et la première fois que je l'ai entendu parler de, c'était quoi encore? Démirétine. Il y a la rétine et puis il y a la démirétine. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et je m'en souviens bien parce que c'était un mardi. À ce moment-là, il n'y avait pas de consultation le mardi matin. Donc j'allais, je faisais typiquement ce genre de choses, relever les boîtes mail, faire le courrier post-opératoire. Et j'avais un médecin l'après-midi. Alors je dis, je suis pas sûre que j'ai bien compris. C'est bien ça? Alors, non, c'est pas ça. Tu veux bien aller me mettre un H là-bas en plus et où elle me renotait certains termes comme ça. Et c'est comme, bon, après, en règle générale, il me le faisait deux fois et puis ça allait. Mais c'est vrai que c'est surtout sur le courrier que je l'ai senti, le manque de vocabulaire médical. Alors après, ça vient assez vite. Et
Encore
Dieu
faut-il
me...
avoir une bonne capacité pour retenir. Ouais,
Ben...
c'est comme dans beaucoup de métiers, je pense qu'on tolère que tu poses la question, que tu t'interroges, puis après on te le dit une fois, puis on attend de toi que ça soit
Oui, et
intégré derrière.
ouais, après, en même temps, c'est vrai que les premiers temps, il a relu quelques courriers, puis il n'a plus fait, et parce qu'il savait bien que si j'avais vraiment un gros doute,
Tu
ben
viendrais le voir.
je lui demandais au moins de vérifier. Voilà, après, ça reste, en règle générale, un courrier de décollement de rétine ressemble à un autre courrier de décollement de rétine. Hein. C'est vraiment juste parfois... La manière dont ça peut arriver au patient, qui peut être important au niveau légal, entre autres pour des interventions d'assurance, qui peut être important. Évidemment, c'est pas la même chose si le monsieur ou la dame s'est fait tabasser plutôt que si, je sais pas moi, il a pris un éclat dans l'œil. Évidemment, c'est pas du tout la même
Bien
chose.
sûr, bien sûr.
Bien sûr, mais ça, c'est à la limite, il vaut mieux pas trop y penser.
Oui.
Je traite chaque courrier en tant que tel, et de toute façon, ceux où on sait qu'il y a une importance juridique derrière, ceux-là, typiquement, je les fais lire. Je sais très bien que mon courrier est bon, parce que bon, je commence à en avoir fait un certain nombre, mais typiquement, je ne veux pas qu'il sorte sans avoir été relu.
Bien
Ça
sûr.
me paraît. C'est juste le
C'est du bon
minimum
sens,
vital.
quoi. Ouais.
Oui, c'est du bon sens et c'est trop risqué vis-à-vis du patient. On ne sait pas à comment ça peut être utilisé derrière. Donc autant que ça
Ouais.
soit fait le plus correctement possible, tout
Mais c'est important
simplement.
ce que tu dis parce que du coup, moi, pour l'avoir vu de mon œil d'infirmière, la secrétaire médicale pour de nombreux médecins, spécialistes, chirurgiens ou autres. Moi, je le vois vraiment comme c'est l'assistant du magicien.
Ah oui, c'est un peu ça, hein, parfois.
Mais du coup, c'est un poste qui est presque difficile à décrire parce que chaque médecin aura une relation différente avec sa secrétaire. Quand je parle de relation, je parle de façon de communiquer. Il y a des choses qui sont implicites, dont on discute même plus. Et moi, j'ai vu des secrétaires rattraper des trucs. Tu te dis, oh, bah comment elle a su? Ah non, mais docteur truc, à chaque fois, il me fait le coup. Quand il fait ça, il le dit, mais en fait, il pense pas à me l'écrire. Donc, du coup, maintenant, je le...
Oui.
Vraiment, la notion de petite habitude, de routine comme ça, c'est très difficile pour certains médecins de devoir se séparer d'une secrétaire, alors pour une raison X ou Y, une grossesse, un départ à la retraite, quelqu'un qui vient remplacer derrière. On remplace pas juste un poste.
Ah non, on remplace pas juste un poste. Le jour où ma collègue précédente est partie... je l'ai senti passer. Hein. Ouais. Je l'ai senti passer. Hein. Et pourtant, je connaissais déjà mon employeur depuis quelques années. J'avais l'habitude de ces petites manies, comme tu dis.
Ouais, ouais, ouais.
Mais tu sais, c'est un truc tout bête, mais dans le courrier qu'il envoie, parce qu'il y a, comme il y a des médecins qui fait de la rétine chirurgicale, il y a une donnée d'urgence. Donc, il y a d'autres ophtalmos qui lui envoient des patients en urgence parce qu'ils ont fait un décollement de rétine ou autre chose. Donc, on leur envoie le rapport, en l'occurrence. Moi, le docteur machin, tu le tutoies ou tu le vouvoies?
Ah oui. C'est à toi d'écrire, hein. Ouais, cher confrère, cher ami,
oui, voilà.
Cher collègue,
oui,
monsieur,
voilà.
Bon, docteur.
Alors, celui-là, tu le tutoies, tu le vois. Il a fini par me dire, bon, ceux-là avec qui je bosse tel jour ailleurs, je les tutoie tous. Et en fait, je vais juste dire ceux que je vous vois. Ok,
d'accord.
Ben, maintenant, je le sais. Mais vas-y pour... au fait, docteur machin, ben, en fait, c'est mon ancienne chef de service, donc je la vous vois toujours.
D'accord, alors qu'on aurait pu imaginer que non.
Oui, voilà, c'est ça, on aurait pu dire, ah ben non, c'est ton ancien
chef. Ils se connaissent.
Ah ben non, pas du tout, lui, il a continué à la vouvoyer.
Oui, non mais oui. Voilà, ça c'est un petit détail, mais ça reflète quand même bien ce que je disais sur le fait que c'est beaucoup plus qu'être secrétaire, c'est être les mains du cerveau de quelqu'un d'autre.
Ah oui, non mais c'est, je dis toujours en riant, je suis une extension de son cerveau. Hein.
Ouais.
Pendant les vacances de Toussaint, ici, qui viennent de passer... j'étais revenue avec du courrier à poster, parce qu'au nombre de choses auxquelles les gens ne pensent pas, c'est tout ce qui est devis divers et variés pour l'utilisation même du cabinet. Typiquement, on a des tours d'eau, là, tu vois, pour avoir de l'eau potable. On a installé autre chose, donc il faut résilier ce contrat. Mon Dieu, ça a été quelque chose. C'est facile pour passer le contrat, c'était beaucoup moins pour le résilier.
Ah, comme pour beaucoup de choses. Hein.
Oui, voilà. Et alors, si tu veux, il y avait deux cabinets. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et donc, il y a toute une partie qui doit être résiliée, d'un côté, mais qui doit être conservée de l'autre. Et ce sont des numéros de contrat différents en plus. Donc, et à un moment donné, je rentre chez moi, j'avais ce courrier, je veux le mettre à la poste, et puis je me dis, mais... Est-ce qu'il a répondu à l'autre mail demandant si il voulait qu'on nous envoie la facture de résiliation? Ah ben non, il ne l'avait pas fait. Donc je l'ai fait. Le problème n'est pas là. En soi, ce n'est pas compliqué à faire. Mais c'est en ça que je dis que parfois, je peux vraiment être une extension de son cerveau.
Oui, oui. Moi, j'ai vu des médecins, par exemple, prescrire... Je vais donner un exemple, c'est complètement faux, mais c'est juste pour illustrer. Prescrire un désinfectant pour une plaie à un patient. Et tous les jours, ils ont prescrit le même désinfectant. Et la secrétaire, une fois que tu arrives devant elle, elle dit « Ah non, mais il faut rajouter les compresses. » Et lui, il n'y pense pas. Et la secrétaire, toute sa vie, et elle a beau lui dire un jour « Docteur, vous n'oublierez pas que le désinfectant, mais les compresses... » C'est pas un bon exemple, parce que désinfectant,
oui.
Compresses... Bon, je pense
oui,
que...
Je comprends ce que tu veux dire.
Ça va te perdre, mais... Et la secrétaire, toute sa carrière, il faudra qu'elle se dise « Ah, mais docteur machin, quand il prescrit désinfectant, il met pas les compresses. »
Oui, c'est ça.
Ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan, parce que je donne cet exemple-là, mais c'est valable pour tellement d'autres choses. Des gens qui se font opérer, il a pas pensé qu'il y avait un arrêt de travail à faire avec, c'est la secrétaire qui s'en occupe.
Exactement.
C'est incroyable.
Ah ouais, non, mais c'est typiquement, moi c'est l'arrêt de travail. C'est l'arrêt de travail, c'est depuis quand et jusque quand? Parce que comme J'ai plus vraiment besoin de lui poser la question, mais si je la lui pose, c'est que j'ai devant moi un cas qui sort de l'ordinaire. C'est surtout ça. Et c'est surtout à ce moment-là qu'il n'y pense pas. L'autre pense, c'est pas drôle.
Bien entendu.
Ou alors, moi, je sais bien que je vérifie quand même régulièrement les prescriptions. Parce que ceux qui ont été opérés d'un décollement de rétine, ils leur prescrivent systématiquement un anti-inflammatoire, qui est toujours le même, qui existe en goutte, mais qui existe aussi en onguent. Et alors, je ne sais pas pourquoi, une fois de temps en temps, ils le prescrivent en onguent sans le faire exprès.
Donc, en onguent, c'est sous forme de crème, de gel.
Oui, c'est
donc
ça.
Rien à voir avec des gouttes parfois.
Non,
ouais.
Et sachant que c'est quand ils viennent d'opérer d'un décollement de rétine, souvent c'est très rouge, il peut y avoir un gonflement, des choses comme ça. Donc, tu vas pas mettre de la crème là-dessus, c'est super douloureux.
Voilà, ça sera plus des gouttes.
Ouais, ça sera plus des gouttes, c'est plus facile. Voilà, donc
mais voilà, mais ça, c'est à nouveau ton œil de secrétaire qui repère ces anomalies. Alors, ça va poser un demi-problème, mais finalement, c'est ce problème plus 1000 autres problèmes. Et toute la journée, constamment, il faut que toi, tu aies la présence d'esprit de tout contrôler. C'est très lourd en charge mentale.
Ouais, c'est le plus difficile, clairement. D'ailleurs, moi, je me suis rendu compte que quand la charge mentale devient vraiment trop importante, je le sens à ma patience qui redescend vis-à-vis des demandes du patient. Je sais bien qu'un jour j'ai un patient qui a assez bien illustré les choses en disant oui mais en fait vous passez votre journée à éteindre des mini incendies. Oui, c'est
ça. Ah, c'est très bien illustré ça.
C'est très très bien illustré. Et je trouvais ça bien vu, c'était quelqu'un qui faisait il savait un peu de quoi il parlait en l'occurrence parce qu'il faisait de la entre autres de la communication de crise.
Ah oui, bah t'es bien passé pour en parler.
Oui, il était bien passé pour en parler, oui, en l'occurrence. Après, oui, non, mais c'est vrai que généralement, les patients se disent que la secrétaire médicale est là sur le temps de présence du patient. Alors après, moi, je travaille temps plein. J'ai assez peu vu de temps plein dans une fonction comme la mienne.
D'accord.
Sont souvent des temps partiels. Je sais pas si t'as croisé beaucoup de secrétaires temps plein.
Ah, c'est une bonne question, mais j'ai pas toujours posé la question non plus. Donc,
oui, je me doute.
Ou alors elles sont avec plusieurs chirurgiens en même temps, donc du coup on se rendait pas forcément compte de la charge de travail. Mais c'est vrai ce que tu dis, tout ce travail invisible. Quoi, les patients imaginent que quand tu travailles, c'est que quand tu es devant eux ou quand tu réponds au téléphone.
Exactement.
Mais tu l'as bien dit, le mardi matin, tu venais pour t'occuper de choses, alors que les patients n'étaient physiquement pas là.
Alors oui, je pouvais répondre au téléphone en même temps. Parfois, ça boîte mail avec le nombre de mails qui peuvent arriver parfois sur une heure. Ne serait-ce que ça, parfois on se dit mais mon Dieu, on va s'en sortir. Passer toutes les commandes pour le cabinet, allant de évidemment tout ce qui est commande de bureau à commande de médicaments.
Mmh. Eh oui, bien sûr.
Oui, bah oui, parce que bon, alors là, typiquement, je sais ce dont on a besoin, donc là, je l'ai prescrit à son nom, j'envoie ça à la pharmacie, et j'allais les chercher. Bon, là, maintenant, il va falloir qu'on change de système, parce qu'on est un peu loin de notre pharmacie de référence, mais je pense qu'il va falloir qu'on les fasse livrer, mais ça aussi, c'est quelque chose à organiser.
Bien sûr, bien sûr.
C'est, ok, bon, quand est-ce qu'on va faire livrer ça? Ça, c'est encore autre chose. Oui, et penser à passer les commandes en fonction du moment où je suis présente. Mmh. Par exemple, je commande tout le matériel de bureau au même endroit. En règle générale, on est livré en 24 à 48 heures. C'est penser à faire ça un mardi pour pouvoir être là le jeudi, par exemple. Parce que le jeudi, je sais que je suis là. Et je sais qu'il y aura quelqu'un et que je ne devrais pas aller le rechercher à la poste, au bureau de poste à côté. Alors, pour le coup, là, il est à côté. Mais c'est jamais très lourd. Mais tu te vois revenir de la poste à côté avec un énorme carton.
Avec les ramettes de feuilles.
Oui, mais en plus, les ramettes de feuilles, ça pèse lourd. Surtout que quand je commande des rames de feuilles, je commande 4 boîtes d'un coup pour être partie. Oui, évidemment.
Qu'est-ce que tu... Enfin, de quoi est-ce que tu manques au quotidien? La question est très vaste, hein. Tu peux me répondre de temps, de moyens, d'argent, de salaire, tu vois, je sais pas, de reconnaissance.
Je dirais, parfois, c'est justement ce moment de temps pour pouvoir évacuer ce qui reste en suspens, mais qui doit être fait, tu vois. C'est parce que avec les années, on a aussi d'autres médecins qui ont commencé, donc le fait qu'ils sont 6 maintenant, c'était pas le cas quand j'ai commencé. Et donc, ce qui fait que parfois, c'est vrai qu'il n'y a pas de consultation le jeudi matin, mais moi, le jeudi matin, honnêtement, vu qu'il n'y a pas de consultation, c'est le jour où je suis contente d'arriver un peu plus tard. Parce que généralement, j'arrive entre 7h15 et 7h30. Je finis au plus tôt à 16h30 et je peux aller jusqu'à 18h.
Ah oui, ça fait des grosses journées.
Et donc, ce qui fait que, typiquement, hein, le mercredi, j'arrive qu'il est 7h15, je repars qu'il est 17h30, 17h35. Bon, j'ai un temps de midi important. Et donc, t'imagines bien que le jeudi matin, je suis contente d'arriver un peu plus tard. C'est difficile d'avoir un moment comme ça pour dire, bon, allez, là, je traite l'air à crever, pour reprendre l'expression d'une amie qui traîne dans la boîte mail le document d'assurance à envoyer un tel, le traitement de juste trier cette satanée boîte mail, ça prend beaucoup trop de place, et que ce soit un minimum rationnel, faire le courrier, faire les commandes.
Oui, et puis les tâches qui sont laissées de côté pour une raison valable, qui est qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, finalement, elles t'incombent toujours à un moment donné.
Ah oui, toujours.
C'est une continuité. Voilà. C'est quelque chose que j'ai toujours... j'en ai toujours pris conscience avec le métier que j'exerçais, le métier d'infirmière. Tu pars le soir avec un patient qui est instable, la nuit, il y a une autre infirmière qui est là, et le lendemain, on repart sur d'autres problèmes. Mais on récupère jamais ces problèmes le lendemain matin. Et pour beaucoup de métiers comme le tien, c'est dur aussi de partir le soir à 17h, de se dire, punaise, demain, j'ai une charge de travail pas croyable. T'arrives le lendemain matin, c'est idem, il ne s'est rien passé.
Ah non,
reprendre là où tu en étais.
Oui. C'est moi, typiquement, quelque chose qui berce beaucoup mon quotidien, c'est le planning opératoire. Donc, il faut envoyer ce planning opératoire. Il faut quand même que l'équipe à l'hôpital sache un petit peu ce qui va leur tomber dessus. Et il y a des documents administratifs pour chaque patient à scanner et à leur envoyer pour les admissions. J'essaye de les faire le jour même. Des fois, c'est pas toujours possible. Si c'est pas fait, je sais très bien que ça va me retomber dessus le lendemain matin.
C'est ça.
Et c'est aussi pour ça que j'essaye que ce soit fait. Mais bon, écoute, quand en plus de ta vingtaine de patients sur la matinée, tu enquilles 3 à 4 urgences, et que ces urgences sont opérées, parce que ça peut arriver le jour même, tu t'occupes de ça et tant pis, ça devra attendre le lendemain et tu sais. T'arriveras plus tard, mais tu sais que t'auras du boulot quand tu vas arriver, ça c'est sûr.
Et t'arrives à déconnecter ? Est-ce que t'as peut-être des astuces quand tu rentres chez toi le soir pour penser à autre chose ? Parce que, moi j'insiste beaucoup sur ce point-là, mais pour l'avoir vu, c'est un métier qui psychologiquement est très 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 prenant.
Ça va mieux maintenant, mais les premiers temps ça a été compliqué. Maintenant, bon, je commence quand même à avoir quelques années dans les pattes. Alors, moi, il y a un truc qui m'aide énormément, c'est que je suis nafteuse. Je suis très contente de ne pas faire le trajet avec quelqu'un, parce que ça, ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Ah oui.
C'est la navette, c'est vraiment le moment où je suis dans mon monde avec mon casque sur les oreilles. Et c'est aussi vrai pour le matin que pour le soir. Il y a le côté déconnexion le soir qui est importante, mais il y a aussi le côté
reconnexion.
Oui, c'est un peu ça en fait.
Oui. C'est un rituel quoi.
Oui, une forme de rituel, tu sais. Quand je sors de l'appartement le matin, je mets mon casque. J'ai déjà mon casque sur la tête. Je suis un peu dans mon monde où j'écoute de la musique, où j'écoute un podcast, où parfois je n'écoute rien. Mais comme ça, je suis isolée du bruit extérieur. Et quand une fois que j'arrive à Bruxelles, vu que je travaille à Bruxelles. Là je retire mon casque et je suis déjà un peu mieux réveillée. J'ai pu me rendormir dans le train entre les deux, ça m'arrive, mais
c'est bien. Ça arrive à avoir cette forme de rituel pour déconnecter le soir, pour fermer la porte du cabinet, rentrer chez soi, chez toi sereinement, et le lendemain reprendre
le travail. C'est venu avec le temps et ça a été un apprentissage long et douloureux.
J'imagine.
Il y avait des fois où j'avais l'impression que ça me suivait même le week-end, en me disant merde, j'ai oublié ça. Ah oui, il faudra ça. Donc j'avais toujours un morceau de papier à portée de main en disant ok, il faut que je note ça.
Ouais, c'est tentant aussi de garder une part de son cerveau au travail et de dire attends, je continue un peu à y réfléchir, je vais gagner du temps pour demain.
Ouais, après il y a un truc que j'ai fait dès le départ, c'est que en fait j'ai pu télétravailler relativement vite.
Ah super, ok.
Oui, parce que en fait tous les ophtalmos au sein du cabinet ont des enfants en âge scolaire. Et en règle générale, prennent leur congé avec les congés scolaires. Donc parfois j'en ai un qui fait une consultation sur les périodes de congés scolaires, mais ce qui fait que l'essentiel des consultations tombe pendant les vacances, sauf celui qui maintient la sienne. Donc ça fait une demi-journée, peut-être deux demi-journées ou une journée parfois sur une semaine ou 15 jours. Et donc ce qui fait que ce que je m'étais organisée pour le premier jour, le lundi, mardi, généralement, j'allais au cabinet, justement, je terminais ce qui était en souffrance. Et puis, mon employeur m'avait accordé le fait de prendre la ligne depuis chez moi.
Super.
Mais donc, ce qui fait qu'il me fallait aussi un accès à la boîte mail.
Oui.
Ben oui, quand même un minimum. Et donc, ça, c'était le plus difficile, c'est quelque chose que je me suis imposé dès le départ, c'est je ne travaille pas, je ne me connecte pas à la boîte mail pour voir ce qui se passe. C'est très tentant. C'est très tentant, ou juste ne pas travailler. Aujourd'hui, je ne travaille pas, j'ai pris congé. Typiquement, je pourrais aller voir s'il y a des demandes d'urgence, mais non, ça
Ah ouais, c'est le
attendra.
piège, hein.
C'est le piège. Tant pis, ça attendra demain matin. Si c'est vraiment très très urgent, parce que ça, par contre, c'est un gros avantage que j'ai, c'est on a un télésecrétariat. Donc, quand je suis pas là, quand je sais pas prendre la ligne, ou si je suis malade, ou des choses comme ça, il y a toujours quelqu'un pour prendre les appels et pouvoir prendre les rendez-vous.
Donc ça veut dire que si on a besoin de te joindre, on saura le faire, mais que si on ne te joint pas, eh ben c'est que l'urgence est réglée.
Exactement, t'as tout
C'est
compris.
confortable aussi, voilà,
Ah oui, non, mais clairement,
d'avoir
il
cette
y
limite.
a 2 ans, mais je pense que c'est déjà il y a 2 ans, je me suis étalée comme une crotte sur le trottoir en face du cabinet. Je me suis foulée la cheville en allant travailler.
Aïe.
Donc, j'ai prévenu mon employeur. Je suis rentrée chez moi. Enfin, il m'a un peu flanquée hors du cabinet pour que je rentre
Restez
chez moi.
assis.
Voilà. On a envoyé un message dans la journée en disant, bon, bah, s'il y a une urgence, vous appelez le médecin et pas Axel, parce qu'elle n'est pas là pendant une semaine, quoi. Voilà.
Mais ça, les gens trouvent toujours une façon de rentrer en contact. Ça, faut faire confiance
Ah non, mais ça, tu
à
peux faire
ça.
confiance. Tu peux te faire confiance au patient pour qu'il entre
Ah
en contact
oui.
avec le médecin s'il en a besoin. Ça,
Ah
toujours.
ouais, c'est
Par
sûr.
la porte, par la fenêtre, par l'égout, s'il faut, mais il trouvera une solution.
C'est vrai, c'est vrai.
Je me moque, mais c'est vrai que parfois c'est un peu fatigant et en même temps c'est tout à fait compréhensible.
Est-ce que ta profession souffre de quelque a priori que ce soit? Est-ce que toi, tu souffres parfois de choses que tu peux entendre de la part de patients ou du grand public ou...
Je dirais que je crois que c'est comme beaucoup de métiers administratifs, comme c'est. Je crois qu'il y a une image qui reste en tête en se disant que entre les patients, la secrétaire se fait les ongles. Non,
Ah
non,
bah clairement, elle n'a pas le temps.
non, elle n'a pas le temps. Mais ça, les
Elle
gens
aimerait bien.
s'en oui. Mais à la limite, ça m'amuse encore plus qu'autre
Ouais.
chose. Ce qui m'agacera plutôt, c'est juste. Mais je pense que c'est lié au fait que les gens se disent que je ne suis là que pendant la période de consultation. C'est, il m'arrive, par exemple, dans ce que je fais au quotidien, je remplis les attestations de soins avec les codes pour que les gens puissent être remboursés. Il m'arrive régulièrement, ça m'arrive pas toutes les semaines, mais ça m'arrive, je me trompe dans le code. Donc si je me trompe dans ce code, la mutuelle renvoie l'attestation au patient et il ne touche pas son remboursement.
D'accord.
Donc si tu veux, ils doivent revenir avec un correctif, je dois faire le correctif et leur remettre. J'ai des patients très fâchés, ce que je peux comprendre, hein, parce que parfois les sommes peuvent être importantes. Ce qu'en soi je comprends, mais je peux comprendre qu'ils soient pas contents. Mais ce que je n'aime pas, c'est le discours. Oui, mais vous n'avez que ça à faire. Ben non, j'ai
Ah,
pas
le
que ça à faire.
mépris, c'est affreux, ça.
Je sais bien que j'ai pris le parti de ne pas y répondre. Tout simplement, je fais ma correction, je lui tends. Voilà, je sais bien qu'il y a une fois, j'ai perdu patience et pas gentiment, parce que j'étais pas gentille sur le coup, mais poliment, en tout cas, je lui ai dit, écoutez, j'en fais au bas mot une centaine sur la semaine. Oui, vous, c'est la deuxième fois que ça vous arrive. Non, je vous vise pas vous en particulier, mais je suis en moyenne interrompue toutes les 5 minutes. J'ai fait la moyenne un jour. je suis en moyenne
Ah
interrompue. Ouais, j'ai fait la moyenne un jour. Je suis en moyenne interrompue toutes les 5 minutes.
oui.
Donc,
Ah oui, ça veut dire que tu peux pas te concentrer sur une tâche de A à Z,
oui,
quoi.
voilà, c'est ça. Donc, c'est et en même temps, c'est ce que j'aime bien. Tu vois,
Ouais, c'est
c'est
paradoxal.
oui, c'est très paradoxal. C'est très paradoxal, mais en même temps, je suis pas sûre qu'un administratif totalement autre où je suis toute la journée sans être interrompue me conviendrait bien aussi, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Donc
Ouais.
c'est tu sais ça tourne, ça sonne, ça va dans tous
Oui,
les
oui. Puis il y
sens
a
et
quelqu'un qui rentre dans le cabinet, quelle que soit la tâche que tu es en train d'exécuter, il faudra l'accueillir tout de suite, ou alors lui dire je vous laisse patienter, mais pas tant,
voilà,
ou
oui,
ouais.
ou attendez un instant, je termine avec la personne avec qui je suis au téléphone
Ouais.
et je suis à vous tout de suite, ou je termine le document que le docteur m'a demandé et je suis à vous tout de suite.
Et alors
Et
attends, ça me
voilà.
fait une super relance pour ma dernière question qui était, est-ce que tu peux nous décrire le patient idéal?
Alors, moi, le patient, ça dépend. En fait, il y en a deux. Alors, moi, il y a un patient idéal au niveau de l'administratif, de manière très sérieuse,
Très
et
bien. Prenez des
qui.
notes, hein, tous ceux qui écoutent là.
Qui là est le patient parfait pour le coup,
Ok.
c'est le médecin, assez curieusement. On dit
C'est
toujours que.
vrai.
Ah ben oui, parce que le médecin, au niveau de l'administratif, s'il est opéré, il sait comment ça marche.
Ah oui.
J'ai quasiment. Alors parfois, ils ont des questions complémentaires auxquelles, généralement, je peux leur apporter une réponse, mais généralement, ça, c'est un patient assez facile.
Oui, il découvre rien, quoi. Ouais,
Oui,
ouais.
voilà, clairement. Alors après. Oui. Les patients qu'on adore, c'est le patient qui est chroniquement en retard, hein, typiquement.
Aïe. Bon, alors, donc,
Et
on est à l'heure, on dit bonjour, bien
on
sûr,
est
dans la
à
formule de
l'heure, on dit
politesse. Ça,
bonjour.
franchement, c'est la base.
Ouais, mais il y a des gens qu'il faut leur rappeler,
Non, mais
clairement.
c'est vrai, c'est vrai. Bon, moi, je vois ça
C'est.
tous les jours, hein. Tu vas même au supermarché. Bonjour,
Oui.
monsieur, à la boulangerie, une baguette. Oui, bah, avec bonjour avant, ça marche tout aussi bien, hein.
Ça marche même mieux, en règle
Ah
générale.
là, c'est affreux, quoi.
Ouais, et alors au téléphone, c'est oui, bonjour déjà, ça
Ouais.
aide, pas mal. Et s'il y a une urgence, parce que ça peut toujours arriver, c'est un s'il vous plaît, ça ne mange pas de pain. C'est
Je
oui,
comprends.
j'entends que ça peut être la panique parce que ça peut être extrêmement angoissant quand on ne sait pas ce qui vous tombe dessus.
Bien sûr.
Voilà, mais c'est si c'est pas possible, si c'est pas possible, c'est parfois, enfin si. T'appelles pour une urgence pendant les vacances, dont je te parlais typiquement avant, c'est pas que je veux pas vous ajouter à l'agenda, c'est qu'il n'y a pas de
Il
médecin.
n'y a pas
Donc
d'agenda.
je vais pas vous voir moi. Bon, voilà.
Ouais.
J'ai un tas de compétences, mais je suis pas ophtalmo.
C'est sûr, c'est sûr.
Voilà. Oui, donc
Bon, est-ce que...
on est à l'heure, on est poli,
Ouais.
on a un moyen de paiement avec soi aussi. Voilà, parce que donc la Belgique, contrairement à la France, je pense que je sais pas comment ça se passe vous chez les spécialistes avec la carte vitale, là. Vous payez
Ah,
quand même
normalement, on paye, hein. Ouais.
si avec le spécialiste, ouais. Enfin, on a un
Alors, je parle
moyen.
pas de tout ce qui est couverture maladie universelle ou ce genre de, voilà, de dérogation pour des situations particulières, mais sinon, on avance les frais.
Ouais, donc ici aussi. Donc on a un moyen de paiement avec soi, oui, quand même, parce que ça
Ouais.
crée pas mal de complications. Bon, surtout à devoir, c'est devoir faire le suivi des paiements après,
Oui, c'est sûr.
qui est un peu casse-pied. Ça, c'est quelque chose tu me demandais tantôt ce qui me manquait comme outil au quotidien, c'est justement moi pouvoir faire ce genre de suivi. Et en même temps, je peux comprendre que mon employeur n'ait pas nécessairement envie que j'ai accès au compte de la société.
Ah oui, c'est délicat. Ouais,
C'est
ouais.
un peu. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, ça me permettrait de finir le travail et de dire, OK, ça c'est fait et j'envoie les dernières attestations parce que je les garde,
Exactement.
tant que c'est pas payé. Et en même temps, lui, je peux comprendre que ça l'arrange pas parce que c'est vrai que ça
Oui.
reste quand même le compte de la société, malgré tout.
Question de confidentialité, c'est peut-être délicat de dévoiler des informations comme ça. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire.
Oui, en même temps, la confidentialité, elle est au cœur de mon métier.
Oui. Ouais.
En fait, donc
C'est vrai, c'est vrai.
c'est le cœur même du métier finalement en fait. Donc
C'est sûr.
secrétaire porte bien son nom.
Oui,
c'est tout,
c'est
tout, tout
vrai.
est dit dans le terme.
Tout est dans le mot.
Tout, oui, voilà.
Est-ce que
Donc
c'est un métier que tu conseillerais pour une reconversion? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast et qui ont des envies, voilà, de reconversion. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais?
je le conseillerais, mais comme dans le cas d'une reconversion, bon, de toute façon, je pense que c'est conseillé dans la plupart des processus de reconversion. Mais ce que je leur conseillerais, c'est d'essayer de voir en tout cas les différents pans du secrétariat médical, parce que bon, moi je travaille dans le privé, mais il y a aussi la clinique, il y a aussi, on n'y pense pas assez, les laboratoires.
C'est vrai.
qui sont régulièrement en recherche de gens capables de faire du secrétariat médical.
C'est vrai.
Donc de penser à ces trois aspects-là et de voir s'ils peuvent pas suivre quelqu'un une demi-journée, une journée pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est.
Pour la
réalité du métier. Mais ça, je pense que c'est relativement... c'est souvent conseillé dans le cadre d'une reconversion, je pense.
Mm-hmm.
De ce que j'en sais, de ce que j'ai plus ou moins entendu. Mais vraiment, ne pas trop idéaliser. Et en même temps, c'est un chouette métier. Hein. Mm-hmm. il faut quand même le dire. Il y a un truc dont il faut se rendre compte aussi, c'est que par rapport à du... J'aimais bien ce que je faisais dans le milieu socio-culturel, mais un dossier reste un dossier.
Mm-hmm.
Une demande de subventionnement qui n'arrive pas, ça peut être très embêtant. Mais on finit toujours par faire avec, c'est-à-dire que si le subventionnement n'est pas accordé, tant pis, on réduit un peu la voilure, parce qu'en règle générale, on l'a prévu. Tu vois.
D'accord.
Si le subventionnement est accordé, on fait le full package. Si le subventionnement n'est pas accordé pour cette partie-là, tant pis, on fait un peu plus.
Vous trouvez des billets pour
voilà.
Que le patient à la fin soit satisfait, quoi.
Oui, voilà. Là, je parle vraiment du côté socioculturel que je faisais avant.
D'accord.
Ce qu'il faut pas oublier dans le médical, c'est que on travaille avec la donnée humaine et que c'est vrai dans tous les métiers médicaux, paramédicaux, mais on se dit que le secrétariat en est éloigné, mais au contraire, on y est en contact constant et on est entre autres très en contact avec l'angoisse et la peur des gens.
C'est important de le dire, ça.
Ouais, très.
Et puis, t'es la première personne qu'ils vont rencontrer décharger tout de suite cette angoisse.
Voilà, ouais. Et je sais bien que j'ai une dame, j'en menais pas large ce jour-là, ça remonte à quelques années maintenant. J'avais dû lui remettre un petit peu, j'avais eu l'impression de devoir la secouer un peu comme ça, j'étais limite un peu gênée parce que c'est une dame qui a l'âge de ma maman. Donc tu te dis pas que tu vas secouer quelqu'un qui a l'âge d'être ta mère, hein, mais en l'occurrence mon chef passe la porte en me disant tiens, c'est les coordonnées d'une patiente qu'on m'envoie en urgence pour un décollement routine. Si tu veux bien l'appeler pour lui redonner pour être sûr qu'elle a bien les coordonnées. Et tu sentais bien, alors elle avait une décision qui en soi était rationnelle, elle aurait bien voulu un deuxième avis. Mais tu sentais qu'il y avait surtout la panique derrière, de se dire « je vais être opérée, non, je ne veux pas ». Et je sais bien que je l'ai un peu secouée au téléphone en lui disant « mais madame, ce qui se passe, c'est ça, et il faut intervenir en autant de temps, autrement votre vision, elle est perdue ».
Ouais, oui, c'est urgent. Ouais.
C'est urgent, oui. Alors... j'étais limite un peu gênée, et c'est vrai que maintenant par contre quand je la vois je sais qu'elle est contente de me voir parce qu'à ce moment-là j'ai pris en compte le fait que c'était la panique totale, mais que je lui ai mis un peu remis l'église au milieu du village, comme
ouais, mais pour la bonne cause, ouais. C'était pas pour arranger qui que ce soit sur quel plan que ce soit, c'est pour sa santé, ouais.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, et c'est oui. Oui, et pour quelqu'un qui connaît pas le milieu médical, il y a un truc auquel il faut se faire aussi, c'est que toutes les urgences passeront avant le confort du... Forcément.
Ouais.
Tant pis, s'il faut rester...
Toutes les spécialités.
Toutes les spécialités. S'il faut rester, on reste. Hein,
ouais.
Non, mais comme je dis toujours, on ne va pas mettre le patient à la porte en plus avec ça, quand même.
Oui, non, mais c'est vrai que quand on évolue dans ce milieu-là... Faut en avoir conscience.
Oui, il faut... Et surtout si on n'en vient pas au départ.
C'est vrai.
Après... Moi, justement, vu que j'étais dans le culturel, j'étais habituée à des plages horaires qui pouvaient être très longues, à devoir rester pour débarrasser, des choses comme ça. Donc, au final, ça ne m'a jamais gênée.
Oui.
Donc, ça m'a beaucoup servi. Mais c'est vrai que si on vient de tout à fait autre chose, ça peut peut-être être surprenant.
Ça peut être surprenant. Ouais,
au final, ouais. Ouais.
Bon, super. Merci beaucoup, Axel. Hein.
Avec plaisir.
Tu as fait un beau tour d'horizon de ta pratique. C'est hyper intéressant. Et je ne veux pas m'avancer, mais ton expérience se déroule en Belgique, mais j'imagine qu'en France,
je pense que ça doit être assez. Je pense que ça doit être assez similaire. Les métiers administratifs se ressemblent quand même assez de manière générale. Donc, voilà.
On va finir avec le petit portrait chinois. J'ai encore quelques petites questions à te poser. La première question, que dirais-tu à la Axel d'il y a 10 ans ?
Que toutes les décisions qu'elle a prises avec les tripes étaient les bonnes.
Parfait. Oh, ça fait plaisir d'entendre ça.
Ça n'a pas été confortable, ça n'était pas nécessairement confortable sur le coup. C'était même à se dire,
Ouais.
c'était même généralement des décisions qui allaient parfois à l'encontre de ce qui pouvait être totalement entendu, entre autres, par exemple, par mes parents,
Oui, c'est vrai. Ouais.
ou par mon entourage, ou par un entourage proche, mais que c'était toutes les décisions qui ont été prises avec les tripes étaient les meilleures. Toujours.
Super. Question suivante, plutôt cantine ou lunchbox?
Lunchbox, on n'a pas de cantine et la sandwicherie, ça va hein, une fois de temps en temps quand il n'y a rien
Voilà,
dans le
mais
frigo, mais bon,
sans excès.
sans excès. Voilà, exactement.
Question suivante, qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études?
Oh, un tas de trucs. Mon Dieu, un tas de trucs. Typiquement, ben justement, en prendre en compte cette donnée humaine qui est si
Ouais.
importante, parce que forcément, c'était pas à ça que j'étais formée non plus. Donc, ça, tu l'apprends un peu sur le tas. Et puis, il y a un truc très bête, mais tu sais, juste simplement apprendre à lire une fiche de paye.
Ah oui, c'est vrai.
Dans n'importe quel boulot, hein. Bon, ça dès le premier, mais c'est vrai qu'on t'apprend jamais à lire une fiche de paye et que t'es quand même bien
Puis ouais.
content
C'est
de.
particulièrement indigeste quand même, hein, la façon dont c'est rédigé. C'est difficile
Ouais,
de
c'est rédigé,
comprendre. Ouais.
et puis parfois t'as juste besoin d'infos en disant bon bah j'en suis où moi là dans mes jours de
Ouais.
congé, c'est pas toujours très clair en fait.
C'est vrai.
On a eu le cas avec ma collègue il y a pas très longtemps qui elle est à temps partiel et qui comprenait pas certains trucs. Et je dis écoute attends je vais me poser je vais voir. Et en fait on a fini par comprendre qu'elle le lisait d'une certaine manière qui n'était pas la bonne, mais on s'est senti un peu bête quand même.
C'est vrai qu'on n'apprend pas ça, c'est vrai. Question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou. Bah, la fameuse chanson qui passe dans le casque avant le matin avant d'aller travailler.
Peut-être pas à ce point-là, parce que si elle passe dans le casque avant d'aller travailler, c'est un peu violent, mais ce qui me met un coup de boost à coup sûr, c'est n'importe quelle composition de John Williams.
Ah là, j'adore.
Mais
Oh.
bon, la marche impériale avant d'aller bosser, c'est peut-être un peu radical comme manière de se réveiller.
Ah oui, c'est un coup d'arrivée en mettant des coups de sabre
Ouais, clairement.
dans le cabinet, hein, faut faire attention.
C'est assez radical, ça,
C'est
comme
vrai.
effet.
C'est vrai. Question suivante, la plus belle phrase qu'un patient t'ait dite.
Un truc qui m'avait beaucoup touchée, je sais pas si c'est la plus belle, mais quelque chose qui m'avait fait extrêmement plaisir, c'est un patient qui m'a regardé et qui m'a dit, c'est impressionnant ce que vous arrivez à garder votre calme. Et pourtant, je peux te dire que le jour où il m'a dit ça, je bouillais intérieurement, je ne sais plus ce qu'il y avait eu. Mais je pense qu'on était, ça arrive pas souvent, mais qu'on était un jour avec 1 heure et demie de retard sur la consultation parce
Ah
qu'on
là
avait eu
là.
des urgences et un truc comme ça. Et je pense que, oui, ça m'a fait extrêmement plaisir quand il me l'a dit parce que je peux dire qu'intérieurement, ce jour-là, je bouillais.
Ouais, il s'est dit là, cette femme, elle a du self-control,
Ouais, clairement.
Je vois très bien la journée avec les patients qui s'entassent dans la salle d'attente et puis les grands soupirs. Comme ça, c'est
Et
affreux.
encore, on avait de la chance parce que c'est un médecin qui ne voit pas d'enfant.
Ah ouais.
Il y a aussi le cas où tu as des patients qui soupirent en salle d'attente ou tu as un enfant qui hurle parce qu'on vient de lui mettre des gouttes de
Ouais.
cyclo.
Ouais.
Ça arrive régulièrement quand même.
Oui, donc déjà avec des adultes, normalement, chacun a conscience de ce qui est en train de se passer,
Plus ou
avoir
moins.
un peu plus de mécanismes de défense pour s'adapter à la situation.
Exactement.
Question suivante, ton meilleur fou rire au travail.
Eh bien ça, j'y ai un peu réfléchi et en fait, j'ai pas vraiment de souvenir de fou rire au travail parce que j'essaye de garder une certaine légèreté comme ça au quotidien quand même qui font que ça part rarement en fou rire total. Mais par contre, il m'arrive régulièrement, c'est un patient un peu embêtant avec qui je viens de raccrocher ou qui fait demi-tour en sortant, je passe la tête au-dessus de mon ordinateur, je regarde ma collègue et je lui tire la langue ou des choses comme ça permet d'alléger un peu le quotidien, tu
C'est
vois.
ça, c'est ça, exactement.
Voilà. Donc j'ai pas vraiment de souvenirs d'un gros fou rire parce que justement j'essaye que ça reste un minimum léger.
Ouais, très bien, très bien. Et la dernière question, un titre de film qui résume ta carrière.
Ah ben ça par contre j'ai pas de réponse à la question.
Ah, alors.
Je sais pas bien. Celle qui ne savait pas ce qu'elle voulait.
Oh bah écoute, aujourd'hui elle s'en sort plutôt pas mal,
Oui, elle s'en sort plutôt pas mal, mais au
hein.
départ elle savait pas ce qu'elle voulait quand
C'est à
même.
moitié faux comme titre.
Voilà. Difficile, pas vraiment de réponse à la question, je dois dire.
Très bien. Bah merci beaucoup Axel.
Ben, merci à toi pour l'invitation.
T'es ravie de te recevoir et puis super d'avoir ton regard très très enjoué sur ce que tu fais. Et voilà, moi j'insiste sur le fait que vraiment t'exerces pas un métier facile. avec toute cette part d'ombre que les patients ne voient pas, que les médecins ne voient pas non plus. Et bravo pour ça.
Ben, si, les médecins, je trouve, le voient plus. C'est entre autres pour ça que le patient médecin est peut-être moins au niveau du secrétariat le plus facile à gérer.
D'accord.
Parce qu'en règle générale, le patient médecin, t'as pas besoin de lui dire pourquoi il est en train d'attendre. Absolument jamais. C'est jamais le patient médecin qui va te faire une grosse crise parce qu'il y a une heure de retard. Jamais.
Ouais, parce pour qu'on en est là. Ouais,
exactement. Lui, il n'y a pas besoin de lui expliquer, il a compris. Donc, moi, le patient médecin, c'est le plus simple à vivre. Écoute, il y en a d'autres qui le diraient peut-être pas, mais là, moi...
Non, mais c'est, tu vois, c'est marrant parce que moi, par exemple, infirmière, c'est un truc que j'ai toujours essayé d'éviter de le dire à tout prix parce que c'est compliqué quand tu dis que tu es infirmière parce qu'on ne s'adresse pas à toi de la même façon. Et du coup, c'est marrant de se dire que ça peut quand même avoir des avantages dans d'autres situations d'être du milieu médical.
Oui, bah oui, parce qu'en règle générale, il n'y a pas besoin d'expliquer, en effet, pourquoi il y a une heure et demie d'attente. Vous doutez bien qu'il y a eu un gros truc au niveau urgence.
C'est ça. Bon, j'espère que vous avez tous bien pris vos notes pendant l'épisode pour bien vous comporter la prochaine fois.
Hein. Voilà.
On ramasse les copies dans une semaine, attention.
Ouh là là. Non, dès demain.
Dès demain. Ah, on vous laisse 24 heures.
Voilà.
Merci beaucoup, Axel. Mais
avec plaisir, Marielle.
À bientôt.
À bientôt.
Un grand merci à Axel pour son partage d'expérience. Si vous pensez que votre histoire a sa place ici, n'hésitez pas à me contacter par mail. L'adresse se trouve en description de cet épisode ou encore sur Instagram. Il est parfois plus aisé pour vous de m'y envoyer une note vocale pour me raconter votre histoire. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.